7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Nous sommes en compagnie de l'avocat spécialiste des droits de l'homme, Françoise Imray, pour évoquer le sort des enfants français détenus en Syrie. Et nous accueillons une autre avocate, Marie Dauzé. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous avez publié Éloge de la prescription aux éditions de l'Observatoire. On vient de dire avec Françoise Imray que le retour de ces enfants français, ils sont aujourd'hui en Syrie, ils sont pour la plupart détenus dans des camps, dans une sorte de no man's land juridique, avec une difficulté d'y voir clair. Certains sont orphelins. On vient de dire donc que cette question était une question qui relevait du droit et pas de la morale. Et justement, que dit le droit à ce sujet ?
Le droit à ce sujet, c'est d'abord la Convention internationale des droits de l'enfant. La France est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et la France est donc obligée de respecter cette convention. Elle s'oblige, cette convention s'impose à elle. Et évidemment, la France doit protection. Mais moi, ce que je constate tout de même, c'est que tout au long de ce quinquennat, la France s'est targuée de faire de la protection de l'enfance une priorité. Elle a même voulu, et elle s'est donnée pour mission, de rendre visibles les enfants les plus fragiles. La question est-ce que ces enfants français méritent ou non la protection de leur propre pays ? Évidemment, oui. Encore une fois, ils sont victimes de deux choses, ces enfants, depuis, 3, 4, 5 ans. Certains sont dans ces camps pour la cinquième année. Ils sont victimes de deux choses. Du choix de leurs parents, certes, mais depuis 3, 4, 5 ans, de la décision de leur pays de les abandonner à leur sort. Vous qualifiez ces camps de no man's land. Les ONG les qualifient de Guantanamo pour enfants. C'est ça la décision de la France.
Marie Dauzé, si le droit dit quelque chose, et donc il semble dire quelque chose de très précis, pourquoi, tout simplement, l'État français n'est-il pas contraint de respecter ces conventions internationales ?
On a porté ce contentieux devant la Cour européenne des droits de l'homme, et nous attendons avec impatience sa décision, qui, je l'espère, condamnera la France pour exposer ses enfants à des traitements inhumains et dégradants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu obtenir une sanction devant les juridictions administratives? Tout simplement parce que ce choix de rapatrier ou non est défini en droit comme un acte de gouvernement, insusceptible donc de recours devant les juridictions. Un acte de gouvernement. Et à partir de là...
Un acte de gouvernement, ça veut dire qu'un gouvernement souverain est libre de gouverner comme il l'entend?
Tout à fait. Par contre, il y a les conventions internationales et la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, la France est signataire notamment de ces deux conventions. Et donc, cela l'oblige, elle est contrainte de respecter ses obligations conventionnelles et internationales. Et nous attendons aujourd'hui qu'elle soit condamnée pour exposer ses enfants directement à des traitements inhumains et dégradants.
Les faire revenir, mais comment, Marie Dauzé? Si par exemple leur mère est détenue avec eux, dans ce cas-là, leur père, j'imagine que le cas de figure n'existe pas, mais peut-être que vous me détromperez à ce sujet. Est-ce qu'il n'est pas finalement plus humain de maintenir les familles ou une partie de ces familles dans le même lieu?
Mais évidemment, d'abord, vous avez raison de le souligner, les pères ne sont pas avec les enfants. Dans ces camps, il n'y a que les enfants avec leur mère. Les mères ne sont judiciarisées qu'en France. N'oublions pas que les autorités qui détiennent ces enfants et ces mères, c'est-à-dire les Kurdes du Rojava, puisqu'on appelle le nord-est syrien le Rojava, les Kurdes appellent tous les États à rapatrier ces enfants et leurs mères, et expliquent bien qu'ils ne sépareront pas les enfants et les mères, et qu'ils ne peuvent pas juger ces femmes, et qu'ils ne veulent pas juger ces femmes. Enfin, ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que depuis le départ de ces femmes, des juges antiterroristes français sont saisis de chaque cas, du départ et du séjour sur zone de chacune de ces femmes, et travaillent tous les jours pour accumuler des preuves à leur encontre. Ces femmes ne sont judiciarisées qu'en France, et elles seront jugées en France. En tout cas, elles ne peuvent être jugées qu'en France. Donc, les femmes qui ont réussi, par exemple, à fuir les camps, à s'évader des camps avec leurs enfants, sont rentrées en France parce qu'elles arrivent à gagner la Turquie. À partir de là, le protocole dit protocole Cazeneuve s'applique et elles sont expulsées vers la France. Elles arrivent en France, les enfants sont séparés des mères, les mères sont mises en examen et sont placées en détention provisoire, et les enfants, eux, sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, vont être placés en famille d'accueil, puis dans leur famille, chez les grands-parents qui les attendent, chez les oncles et les tantes, et vont régulièrement voir leur mère en détention, accompagnée d'éducateurs et de psychologues, pour construire et comprendre leur histoire.
Françoise Imray, vous êtes avocat spécialiste des droits de l'homme, je l'ai dit, vous êtes aussi ancien ambassadeur des droits de l'homme, mais si les droits de l'homme sont tout simplement des droits et pas de la morale, pourquoi la France n'est-elle pas contrainte d'appliquer ces décisions? Pourquoi n'y a-t-il pas des condamnations? Puisque si je décide, par exemple, de griller un feu rouge, ce n'est pas à ma libre appréciation. Je serais, si un policier passe par là, pénalisé.
Comme Marie Dosé, qui porte ce combat depuis longtemps, je dois dire, à qui je rends hommage pour l'avoir soulevé, et à un moment où c'était difficile à entendre, parce que plus nous étions proches des attentats, plus le corps social était rétif ou insensible et tentait donc effectivement de laisser ce sujet dans l'angle mort. Et effectivement, c'est cela qui a valu cet abandon que vous mentionnez tout à l'heure. Mais comme elle l'a rappelé très justement, il y a heureusement des institutions, et c'est l'honneur de la France d'avoir porté l'existence de ces institutions, comme la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont saisies. N'attendons pas une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme pour prendre les décisions qui s'imposent. Et encore une fois, ce sont des décisions difficiles. Ce n'est pas une lutte du bien contre le mal. Il y a des inconvénients. Je ne les mésestime pas, je les mesure d'ordre différent. Économiques, sociaux, sécuritaires, évidemment. Le risque pris par le placement des enfants et la séparation des mères. Le pari fait sur la déradicalisation qui n'est évidemment pas gagné d'avance. Bref, il y a des inconvénients qu'il faut regarder en face. Mais de toutes les façons, nous n'avons pas le choix, ce n'est pas une option. Dès lors que ces enfants sont français et que nous sommes liés par des conventions internationales qui nous constituent. Et c'est ça, c'est intéressant parce que c'est l'universalité des droits fondamentaux. Elle s'incarne dans ces institutions internationales. Et il faut les invoquer, ces textes, et il faut pratiquer ces institutions pour que ce grand apport, d'ailleurs, en grande partie français au monde, soit défendu et encore actuel.
Marie Dosé, si je vous dis que les Français n'en veulent pas du retour de ces enfants, puisqu'un sondage a été fait, alors quel sondage, etc. Je vous cite un article de Libération d'octobre dernier. Là aussi, est-ce que finalement la souveraineté, elle n'est pas au peuple, alors certainement pas au sondage, mais au peuple, à un peuple hypothétique qui influencerait en l'occurrence les politiques, qui se diraient que c'est un combat où il n'y a que des coups à prendre?
Vous savez, ce qu'on appelle l'opinion publique, c'est toujours très compliqué à définir, et surtout par son âge. Elle n'est pas figée. Moi, ce que je constate, c'est que Françoise Imray l'a rappelé, voilà, trois ans que je me bats pour le rapatriement de ses enfants. Lorsque je prenais la parole sur ce sujet-là, il y a 3 ans, je recevais régulièrement des menaces de mort. Aujourd'hui, j'ai coutume de dire que je reçois des demandes de stage d'étudiants qui sont profondément choqués par cette situation. Je pense pas qu'on puisse, sur des questions comme celle-là, considérer que l'opinion publique d'abord est figée et qu'ensuite doit être le vecteur de la prise de décision. L'abolition de la peine de mort ne serait jamais intervenue. Juste une chose quand même. Sur l'impératif sécuritaire, ce qu'on est en train de construire là, pour ces enfants, ce qu'il va falloir leur expliquer un jour, c'est très dangereux. L'histoire de France de ces enfants, lorsqu'ils auront 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qu'on va devoir leur expliquer que leur pays a préféré pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, prendre le risque de les voir mourir dans un camp plutôt que de les voir rentrer dans leur pays. Enfin, peut-on imaginer ce que psychologiquement ces enfants vont penser? Est-ce qu'on n'est pas là en train de fabriquer le pire chez ces enfants? Là aussi, encore une fois, moi, ce combat que je mène, que ce soit les parrainages, nous avons avec notamment Sophia Aram, Fabienne Servan-Schreiber, Serge Effez, mené une campagne pour que chaque enfant puisse avoir un parrain. C'est aussi pour leur dire, il n'y a pas qu'une seule France. Il n'y a pas qu'une France qui vous dit, on ne veut pas de vous. Il y en a une autre qui se bat pour que vous rentriez, mais pas seulement sur un impératif humanitaire, c'est aussi sur un impératif sécuritaire. Parce que la rancœur qui risque fort de grandir chez ses enfants, va poser un problème considérable.
Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de supérieur à la morale ? Ce serait par exemple la raison d'État, notamment parce que l'on se dirait que ce que vous dites est parfaitement exact, maître Dauzet, mais à côté de cela, il y a un risque très fort d'enfants qui sont peut-être déjà fanatisés, peut-être ont-ils été entraînés dans des camps de l'État islamique, parce que on sait qu'hélas, un enfant, même extrêmement jeune, peut porter des armes, peut avoir des désirs qui ne sont pas des désirs de paix.
Première observation, l'histoire de ces enfants, l'histoire syrienne de ces enfants, c'est l'histoire des camps, et plus l'histoire de Daesh. Pardon, hein. Mais les deux tiers de ces enfants avaient moins de 6 ans quand ils sont rentrés dans ces camps. Donc, en fait, ils ont passé toute leur enfance, la moitié de leur enfance, les deux tiers de leur enfance, et certains même sont nés dans ces camps. En réalité, leur souvenir de la Syrie, ce sera le souvenir des camps, et pas le souvenir de l'État islamique ou de Daesh. Première observation. Certains de ces enfants ont vécu sous Daesh. Ils sont doublement victimes. Ils sont doublement victimes. Ils sont victimes de guerre. Et il faut, au contraire, prendre soin d'eux, les guérir et les réparer.
Et je voudrais répondre sur la raison d'État, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal réfléchi. J'ai eu l'honneur d'être ambassadeur de France pendant 10 ans. C'était pour moi un très grand privilège. Mais la raison d'État, c'est-à-dire en fait l'intérêt supérieur de la France, sa crédibilité dans le monde, sa place dans le monde, quelle serait-elle si nous ne respections pas les conventions internationales dont nous avons porté l'existence. Et ça a été notre honneur que d'être derrière cette convention internationale sur les droits de l'enfant, comme nous avons porté la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres institutions, ou la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est justement la raison d'État commande, c'est-à-dire l'intérêt de la France, sa place dans le monde, sa respectabilité, la qualité d'écoute de sa parole, commande que nous respections les principes que nous avons nous-mêmes proposés au monde.
Justement, maître Zimret, il y a aujourd'hui 50 000 enfants, probablement, dans ces camps. Les autres pays, comment agissent-ils ? Est-ce que des pays font autrement, mieux, je mets le terme entre guillemets, mieux que la France ?
Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, je voudrais éviter le discours du bien et du mal, mais en tout cas, plusieurs pays européens ont décidé de rapatrier, c'est un sujet que Marie Dauzet connaît très bien, de rapatrier tous leurs enfants.
Oui, la France s'isole de plus en plus. En 2021, 331 enfants et femmes étrangers ont été rapatriés. Sur ces 331 enfants et femmes étrangers, 97...
Sur 50 000, ça fait pas beaucoup.
Attendez, 97... enfants et femmes étaient européens. Donc 97 enfants et femmes européens ont été rapatriés. Sur ces 97 enfants et femmes, seulement 7 enfants français ont été rapatriés. Et c'était en janvier 2021. Plus un seul enfant depuis un an. Juste, j'ai demandé le rapatriement d'une femme malade des dizaines de fois. Mes demandes de rapatriement se terminaient par « si vous la laissez dans ce camp, elle va mourir ». Elle n'a pas été rapatriée. Sa petite fille a vu sa mère agoniser pendant 3 ans. Elle est morte. Elle est morte, elle a été enterrée en quelques heures à proximité de ce camp. Cette petite orpheline n'est toujours pas rapatriée depuis plus d'un mois. Est-ce qu'on se rend compte du traumatisme de cet enfant ? Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de fabriquer ? C'est ça la réalité.
Mais est-ce que l'on peut rendre le droit à cet égard, maître Dauzet ? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas défendre le droit au nom de ce qui va arriver si on piétine ce même droit. Lorsque vous dites que cette petite fille va probablement en être durablement affectée, tout le monde sera d'accord avec vous, le fait que celle-ci devienne, par exemple, partisane des thèses que sa mère défendait ou hostile à la France, cela ne peut pas être évoqué pour justifier justement qu'on la rapatrie.
Mais pas du tout. Moi, ce que j'évoque simplement, ce sont les conventions que la France a signées.
Alors, celles-ci sont indépendantes de ce que
cette petite fille deviendra. Et qui lui interdit d'exposer ses enfants français à des traitements inhumains et dégradants. C'est cela, ce qu'on a soulevé et ce qu'on a mis en exergue devant la Cour européenne des droits de l'homme et ce qu'on continue de mettre en exergue devant les commissions internationales, notamment Commission internationale des droits de l'enfant.
François Zimeray.
Je crois qu'une société se mesure, la valeur d'une société se mesure autant... C'est ce qu'on écrivait dans cette tribune avec Bernard Cazeneuve, autant à ce qu'elle s'interdit de faire qu'aux accomplissements dont elle se prévaut. Et c'est vrai d'ailleurs pour une société comme c'est vrai pour un individu. Eh bien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et abandonner ses enfants, pour la France, ça ne doit pas être une option.
En conclusion, aujourd'hui, Marie Dauzé, qu'est-ce que vous demandez ?
Non, mais je demande à ce que le droit s'applique. Je demande à ce que la France prenne enfin en considération cet impératif sécuritaire et humanitaire qui est le rapatriement de ses enfants et de ses femmes. Encore une fois, on parle de détention arbitraire. Elles sont détenues sans droit ni titre dans un territoire qui n'est pas un État et ces enfants sont prisonniers. Des enfants français sont prisonniers depuis 3, 4 ou 5 ans parce que la France refuse de les rapatrier.
Françoise Zimeray, je l'ai dit, vous êtes avocat à la Cour pénale internationale, et vous êtes le défenseur d'un certain nombre de causes, y compris de causes qui, aux yeux de tous, sont des causes perdues, des figures même qui parfois incarnent une forme de monstruosité pour l'époque. Je pense par exemple à Ghislaine Maxwell, qui est considérée comme étant une complice d'Epstein, le pédocriminel Epstein. Comment peut-on défendre une femme telle que celle-ci ?
Alors d'abord, elle est défendue par d'excellents avocats américains. Moi, je n'interviens pas du tout sur son procès et sur la question de son innocence ou de sa culpabilité. J'ai été saisi par, avec mon associé Jessica Finel, nous avons été saisis par sa famille, d'une question que vient d'évoquer d'ailleurs Marie Dauzé, qui est celle de la détention arbitraire. Voilà quelqu'un qui est détenu depuis presque 600 jours, à l'isolement, avec des fers aux poignets et aux chevilles, qui n'est pas été en situation de préparer sa défense. Comme tout le monde, j'avais vu des documentaires qu'il a présentés comme archi-coupable. J'ai lu des dizaines d'articles de la même façon. On s'est tous fait une opinion sur cette situation. Et puis à un moment, je me suis dit, mais j'ai jamais entendu le son de sa voix. Sa défense ne s'est jamais exprimée. Et donc voilà quelqu'un qui a été présenté comme coupable au monde, qui a été traité comme coupable et qui a été perçu comme coupable, et ce, avant tout jugement et avant de pouvoir être entendu. Et donc là, ça pose le problème du procès équitable et de la nécessité de sa détention avant d'être jugé. J'ajoute qu'il y a une dimension de discrimination, parce que les hommes qui ont été accusés aux États-Unis dans des grands procès des crimes les plus graves, meurtre, viol, O.J. Simpson, Weinstein, Madoff, grande escroquerie, etc., ont tous comparu libres. Donc il y a une diabolisation. Et le lien avec le sujet qu'on vient d'évoquer, on parlait du procès, et je parlais tout à l'heure du sentiment d'écoute et de respect qu'il y a dans cette... et que c'est tout à fait à l'honneur de la France d'organiser un grand procès comme celui-là. Je ne sens pas chez les victimes, je parle du procès des attentats terroristes, je ne sens pas chez les victimes le quart du dixième de la haine et de la diabolisation qui s'abat sur cette femme. Encore une fois, je ne me prononce pas ni sur son innocence ou sa culpabilité, mais je pose la question de la possibilité d'un procès équitable, de la présomption d'innocence pour quelqu'un qui a été présenté comme coupable avant même d'être jugé ou entendu.
Maître Dauzé.
Moi, j'ai été bouleversée dans le cadre de ce procès, des attentats du 13 novembre, d'entendre certaines victimes se tourner vers les avocats de la défense et dire haut et fort, il faut que ces enfants soient rapatriés. Voilà, j'ai entendu ça et ça m'a profondément bouleversée. Et je pense que c'est ça la maturité et c'est ça, c'est ça notre force en fait. C'est ça notre force, c'est la force de l'état de droit.
Mais justement, si on écoute les victimes, si on considère que les victimes, alors dans le cas des attentats du 13 novembre, sont à même d'entendre qu'il faut défendre les criminels. De la même façon, les victimes, dans le cas donc des victimes de Jeffrey Epstein, demandent que Ghislaine Maxwell soit aujourd'hui détenue, condamnée, puisque Epstein ne peut plus l'être, il est mort.
Elle est d'abord, notre action, elle n'est pas contre les victimes, contre les plaignantes. Ghislaine Maxwell est accusée d'infractions graves. Elle doit pouvoir y répondre. Les victimes y ont droit. La vérité y a droit. Mais dans le cadre d'un procès équitable. C'est-à-dire un procès respectueux des principes fondamentaux, les droits de la défense, la présomption d'innocence. Or, qu'en est-il de la présomption d'innocence de quelqu'un qui a été présenté dans le monde entier comme archi-coupable avant d'avoir été simplement entendu?
Ce sont des faits qui ont 25, 27 ans pour les plus anciens. Ils ne sont évidemment pas prescrits, sinon il n'y aurait pas de procès. Marie Dosé, vous êtes justement contre la prescription, mais pour la prescription, mais on voit que la prescription, sur le plan juridique, est une notion qui s'effrite de plus en plus.
Ah oui, à force de réformer les réformes et puis et effectivement d'ajouter ou de suspendre le délai de la prescription, de l'interrompre, de reporter son point de départ à l'échelle d'une vie pour certaines infractions, plus rien ne sera prescrit en tout cas. Et effectivement, j'explique dans ce livre pourquoi je considère que tout ceci est un risque pris parce que la prescription, c'est d'abord un principe fondamental de lutte contre l'arbitraire. Hein ? La preuve n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. Et si on considère que 30, 40, 50, 60 ans après une infraction, on peut toujours poursuivre quelqu'un, nécessairement, on va le poursuivre sur des preuves qui n'existeront plus. Et c'est un risque qui, dans un état de droit, ne doit pas être pris.
Je veux rebondir sur des termes que vient d'employer Marie Dosé, à l'échelle d'une vie. Et je trouve que ce qui est très frappant, c'est que notre époque n'est plus à l'échelle d'une vie, justement. Il y a cette hubris de, comme si, vous voyez, on veut la damnation éternelle, on veut pas la justice et la condamnation. Bien sûr que si quelqu'un fait quelque chose de mal, qu'il s'agit de Ghislaine Maxwell ou quelqu'un d'autre, s'il est prouvé qu'elle a fait quelque chose de mal, elle doit être jugée et condamnée. C'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons de diabolisation et de damnation éternelle. Et on n'est plus à l'échelle d'une vie. Lorsqu'on prononce des peines de 80 à 150 ans de prison, on n'est plus à l'échelle d'une vie. Quand on prétend pouvoir juger des gens 40, 50, 60, on n'est plus à l'échelle d'une vie. Alors, la seule exception que l'humanité considère comme justifiée, c'est les crimes contre l'humanité. Enfin, toutes les infractions ne sont pas des crimes contre l'humanité, sauf avoir perdu toute notion d'échelle, justement.
Damnation et bannissement.
Un dernier mot.
Damnation et bannissement, voilà. C'est-à-dire que on ne demande plus à poursuivre quelqu'un, à le condamner, à ce qu'il exécute une peine. On demande et on exige son bannissement. Et c'est là où on quitte l'état de droit et on arrive dans le domaine de la vengeance.
Mais alors, justement, très, très rapidement, puisqu'on en est là, puisque aujourd'hui le tribunal de l'opinion rouvre des dossiers qui sont très anciens, plus anciens que la prescription, est-ce qu'il ne faut pas en prendre acte? Parce que c'est vous-même, avocate, qui êtes embarrassée dans certains procès. Je ne veux dire pas forcément vous, Marie Dosé, mais dans certains procès, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir procès puisque les faits sont prescrits.
Oui, il ne peut pas y avoir procès puisque les faits sont prescrits. Et c'est. Et c'est justement parce qu'il faut faire attention au risque d'arbitraire que la prescription doit être préservée dans un état de droit. Et je pense que la prescription doit être sauvegardée pour éviter des condamnations sans preuve.
Et il y a beaucoup d'orgueil à vouloir abolir le temps comme ça et considérer qu'il n'a pas de prise. Cette forme d'anti-âge judiciaire est une marque de notre temps et de l'hubris contemporain.
François Simeret et Marie Dosé, merci beaucoup. Je rappelle, Marie Dosé, que vous avez publié il y a quelques semaines « Éloge de la prescription », c'est aux éditions de l'Observatoire.